Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, un spectre hante l'Europe, celui du populisme qui viendrait mettre fin à 40 ans d'hégémonie libérale. Mais qu'est-ce que le populisme, une idéologie ou une manière de faire de la politique? Et tous les populistes de droite et de gauche sont-ils d'accord entre eux? Pour en débattre, nous avons invité deux philosophes politiques qui ont eu tous deux beaucoup d'influence sur leurs camps respectifs, à gauche et à droite, et qui pensent tous deux que nous sommes bien entrés dans un moment populiste. Alors à ma gauche, Chantal Mouffe, professeure au département de sciences politiques et relations internationales de l'université de Westminster en Grande-Bretagne, avec votre mari argentin Ernesto Laclau, décédé en 2014. Vous êtes considéré comme les théoriciens du populisme de gauche. Votre dernier livre s'intitule d'ailleurs « Pour un populisme ». Populisme de gauche, il est paru chez Albin Michel. Vous y écrivez en introduction que dans les années à venir, vous en êtes persuadé, c'est entre populisme de droite et populisme de gauche que passera l'axe central du conflit politique. Alors est-ce que c'est la raison d'être de ce débat avec Alain de Benoît?
Moi, le débat me semble, je crois qu'il peut être intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir avoir, je crois, ce que j'appellerais un véritable débat agonistique. Pour moi, agonistique signifie un consensus conflictuel parce que c'est pas intéressant d'avoir un débat avec quelqu'un qui considère que le populisme, c'est de la démagogie. Là, franchement, mais je crois qu'on a justement, avec Alain de Benoît, un accord sur vraiment... On pense le populisme d'une manière plus positive, mais on a évidemment un côté de désaccord, donc c'est consensus conflictuel, et c'est, à mon avis, c'est le genre de discussion qui est intéressant.
Alain Benoît, vous avez été le théoricien de ce qu'on appelait la nouvelle droite, vous avez publié une bonne centaine de livres, dont Le Moment Populiste en 2017 chez Pierre-Guillaume Deroux, et Contre le libéralisme en 2019 aux éditions du Rocher. Vous étiez venu dans cette émission pour en parler. Alors vous, la raison d'être de ce débat avec Chantal Mouffe?
Non, c'est assez simple. Moi, je suis avec beaucoup d'intérêt les travaux de Chantal Mouffe depuis 20 ans, 25 ans, au moins. Ouais. À l'époque, ce qui m'a attiré mon attention chez elle, c'était les vues très originales dont elle faisait preuve sur la nature du politique. C'est précisément ce terme d'agonisme ou d'agonistique, n'est-ce pas, qui montre qu'il y a quelque chose de conflictuel, d'irréductiblement conflictuel dans le politique. Et donc, j'ai lu beaucoup ses travaux. Et puis, j'ai vu, c'est une coïncidence, qu'elle a commencé vraiment à s'intéresser au phénomène populiste, à peu près au moment où moi-même, je travaillais sur le sujet. Elle a fait un livre très intéressant, d'ailleurs, qui s'appelle « Pour le populisme de gauche ». Moi, mon livre ne s'appelle pas « Pour le populisme de droite ». C'est le moment populiste parce que... Autant je trouve que le populisme est quelque chose d'assez positif, d'assez intéressant, autant je pense qu'il ne s'agit que d'un moment. Et par conséquent, ce moment, sur quoi est-ce qu'il va déboucher, le meilleur ou le pire, je ne le sais pas.
Interrogeons-nous sur ce moment. Oui. Pourquoi pensez-vous l'un et l'autre que nous sommes dans un moment populiste?
Oui, parce que Alain de Benoît a dit que lui, il a l'air de dire qu'il y a une différence là-dessus. Mais moi aussi, je parle du moment populiste. D'ailleurs, avant d'avoir écrit ce livre-là, j'avais écrit plusieurs articles, justement, où je disais qu'on nous trouvons aujourd'hui la conjoncture actuelle. Je dis, c'est un moment populiste.
Hein. Voilà, ça ne va pas durer éternellement pour autant.
Non, certainement. Mais en fait, ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose qui est... très limité, ça peut... Si vous voulez, moi, ce que j'entends par moment populiste, c'est un moment de crise d'hégémonie. Alors ça peut être, dans le cas où nous nous trouvons, je crois qu'il y a une crise de l'hégémonie néolibérale. Et cette crise de l'hégémonie néolibérale, elle peut durer. Hein, je ne pense pas qu'elle nécessairement, ça va être résolu. Donc le moment populiste peut durer un certain temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas... par exemple, il y a des... je n'aurais pas dit... je pense par exemple à l'époque que j'étudie dans l'illusion du consensus. C'est le moment de la grande hégémonie de Blair. C'était pas un moment populiste du tout. Je veux dire, maintenant on est dans un moment populiste parce qu'il y a une crise de l'hégémonie néolibérale. Mais
vous êtes d'accord sur ce?
Oui, je suis assez d'accord. Peut-être avec d'autres mots, je pense très profondément qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de transition. Et que le populisme est un phénomène de transition. Transition vers quoi? C'est là où il y a évidemment une part d'inconnu. Heureusement, parce que si l'histoire était prévisible, elle deviendrait vite ennuyeuse. Mais déjà, pour cerner un peu le phénomène, avant d'en discuter, donnez-moi juste trois minutes. Alors, premièrement, je crois, c'est important de le dire, qu'il n'y a pas d'idéologie populiste. Il y a un style populiste, pour élaborer ça de différentes manières. S'il y avait une idéologie populiste cohérente, on ne parlerait pas du populisme de droite, de gauche, etc.
Et bon. Je pense que Chantal Mouffe est d'accord avec vous, puisqu'elle dit que c'est une manière de faire de la politique.
C'est une manière de faire de la politique.
Ça n'est pas une idéologie.
Autrement, dans une perspective contre-hégémonique.
Oui, oui, oui. Et ce n'est pas non plus, j'insisterai, un régime. Hein.
Non, du tout.
Un régime,
tout,
ça c'est très important.
Du tout. Alors, parmi les innombrables causes qu'on allègue pour parler de plus, moi je vois deux catégories de causes qui sont fondamentales, parce que si on n'en prend pas en compte, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Il y a une transformation structurelle de l'existence pour une partie grandissante de la population. Nous sommes dans une société liquide, comme disait Zygmunt Bauman, fluide, tout est transitoire, éphémère, ce qui crée déjà un certain malaise dans les esprits de beaucoup de gens, mais la sociologie du travail évolue. C'est-à-dire que le statut le plus général aujourd'hui, c'est la précarité. Tout le monde va rentrer dans une sphère de précarité. Les gains de productivité expliquent qu'on produise de plus en plus de biens et de services avec toujours moins d'hommes, donc on va se retrouver avec des gens superflus, les hommes en trop dont parlait Claude Lefort, des gens dont on ne sait pas ce qu'on va faire. Le travail devenant une denrée rare, on assiste à la montée d'un chômage structurel et non plus conjoncturel. Les gens qui ont du travail pour le garder sont prêts à céder à tous les chantages. Hein, et donc, il y a une crise formidable. La mondialisation libérale a aggravé la situation en mettant en concurrence les travailleurs des pays européens avec des malheureux qui triment toute la journée pour quasiment rien et en délocalisant selon leurs intérêts qui leur permettent de faire du dumping fiscal, environnemental ou tout ce que vous voulez. Le résultat, c'est que les gens ressentent un malaise qui est plus que social. C'est un malaise existentiel. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, n'est pas un mouvement social comme les autres. C'est un mouvement existentiel. C'est pour ça qu'il a fait preuve de tant de pugnacité, de durée, de ténacité. Les gens n'ont plus rien à perdre. Bon. Et enfin, dernier phénomène dans cette catégorie, on assiste aujourd'hui à un déclassement des classes moyennes, quelque chose de totalement nouveau par rapport à l'ère du fordisme triomphant, hein, où ça s'enrichissait en haut, mais ça finissait par profiter un peu à tout le monde, et la croissance moyenne augmentait, et les enfants, quand ils y rentraient, n'en sortaient plus. Aujourd'hui, ça s'accumule toujours les profits en haut, mais ça ne redescend plus en bas. Et en bas, c'est la pauvreté ou la stagnation ou la précarité qui règne. Hein, c'est le passage de la société en pyramide à la société en tablier. Et de ce fait, il apparaît une nouvelle structure de classe qui crée les contours d'une guerre des classes. Je pense que nous revenons à une guerre des classes sociales, avec des classes populaires qui restent numériquement nombreuses et qui se solidarisent tout à fait naturellement de la partie inférieure des classes moyennes qui sont en période de déclassement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, très vite, c'est l'extraordinaire climat de défiance qui s'est instauré vis-à-vis de la classe politique, toutes nuances confondues, de droite ou de gauche, c'est-à-dire directement contre ces partis de gouvernement qui, en alternance, ont dirigé un peu partout pendant les dernières décennies. Et ce n'est pas un hasard si la montée des populismes, hein, toutes tendances confondues, là aussi, a pour effet premier l'élimination, la désagrégation, l'agonie des vieux partis de gouvernement, vieux partis institutionnels, et on voit ça comme des dominos se passaient dans tous les partis. En France, où on était resté longtemps préservé de ce phénomène, regardez le destin du Parti Socialiste. Je veux dire, moi je suis surtout historien des idées. Quand je me souviens de ce qu'a joué le Parti Socialiste comme rôle dans l'histoire de ce pays, et qu'aujourd'hui c'est une sorte de petite marécage de club, je ne sais même plus qui dirige quoi ni qui fait quoi. À droite, les Républicains, hein, qui...
Bon, héritiers du Parti gaulliste.
Sont entrés en agonie. Donc, il y a à la fois une clarification, une radicalisation, faut pas se le dissimuler, mais surtout une transfiguration profonde du paysage politique qui est due précisément, dont les populismes sont le résultat, sur fond général de crise du capitalisme libéral et de l'hégémonie néolibérale.
Oui, bon, d'accord. Oui, donc, je suis d'accord avec certains des points que vous avez indiqués par un bon, là. Mais, moi, je vois la chose d'une manière un peu différente. Mais d'abord, je voudrais dire une chose par rapport à spécifier le populisme. Moi, je le défends, mais ça, je reprends l'idée qu'Ernesto Laclau a défendue dans La raison populiste. Donc, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un régime, ça n'a pas de contenu spécifique, programmatique spécifique. C'est une stratégie de construction de la frontière politique. Pour moi, c'est absolument fondamental, ça. Et justement, et nous sommes aujourd'hui dans un moment populiste parce que on est dans un moment où il y a toute une série de résistances qui se manifestent contre ce que j'appelle la post-démocratie. La post-démocratie, c'est la conséquence de 30 ans d'hégémonie néolibérale et elle se manifeste de deux manières. Je crois qu'on a des points communs, mais on analyse les choses différemment. Parce que, disons, en fait, déjà, dans l'illusion du consensus, j'étudiais une partie de ce qu'est la post-démocratie, qui est ce que j'appelais à cette époque-là, enfin, je l'appelle toujours comme ça, la post-politique. Hein, c'est-à-dire le fait que, alors ça, c'est la conséquence, bien entendu, de la troisième voie, du rapprochement du parti de centre-droit et de centre-gauche, qui vient du fait que les partis sociaux-démocrates ils ont capitulé à l'hégémonie néolibérale, ils acceptent l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à l'hégémonie néolibérale. Donc, quand ils arrivent au pouvoir, ben, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est gérer de manière un peu plus humaine Ça, c'est vraiment la pause politique. Conséquence de ça, ça veut dire qu'en fait, les citoyens n'ont plus vraiment de voix, ils ne peuvent pas prendre de décision. Quand ils vont voter, parfois justement avec mes étudiants, je dis, c'est la différence entre centre-droit et centre-gauche, c'est Coca-Cola et Pepsi-Cola. Donc ils n'ont pas de voix. Alors ça met en question ce qu'on peut appeler la souveraineté populaire. Parce que pour moi, l'idée de démocratie, il y a deux aspects. C'est l'égalité et la souveraineté populaire. Quand je parle de post-démocratie, je parle d'une situation où les deux éléments ont été mis en question. Donc, le premier, c'est la post-politique. Les citoyens n'ont plus de voix. Les indignados, par exemple, disaient quelque chose en Espagne qui était très juste. Nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. Hein. Tenemos voto, pero tenemos voz. Oui, parce que c'est vrai, si on va voter entre Coca-Cola et Pepsi-Cola, ils n'ont pas de voix. Ça, c'est donc l'élément. Un des éléments centraux de l'idéal démocratique a été laissé de côté. Et alors ça, c'est un phénomène un petit peu plus récent que j'ai commencé à voir surtout à partir du moment de la crise de 2008. Parce que je crois que la crise de 2008, c'est une crise économique qui s'est transformée en une crise d'hégémonie du modèle néolibéral. Et la crise, les conséquences. La façon dont les partis sont intervenus pour aider les banques et surtout les politiques d'austérité qui ont été mises en place. Alors ça a conduit à un phénomène que j'appelle d'oligarchisation de nos sociétés. Parce que je crois que les sociétés démocratiques d'Europe occidentale sont dans un processus. Alors là, je rejoins ce que vous disiez. On a un gouffre qui s'est installé entre un groupe chaque fois plus petit de gens très 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 riches et de l'autre côté, alors bon, les classes populaires évidemment qui sont encore plus, les classes moyennes qui sont en train d'être précarisées, paupérisées, et puis toute une série de un développement exponentiel des inégalités. Parce que c'est quelque chose qui est bien documenté par Thomas Piketty dans son livre sur le capitalisme au XXIe siècle. Donc, ça veut dire que l'autre élément fondamental de l'idéal démocratique qui était la lutte pour l'égalité, aussi laissé de côté. J'appelle ça la post-démocratie. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une multiplicité de résistances contre cette post-démocratie. Les Gilets jaunes, à mon avis, bien que je n'appelle pas ça un mouvement populiste, je dirais qu'on peut en parler par la suite si vous le désirez, mais les Gilets jaunes, si on voit leurs deux revendications fondamentales, il y en a une qui a à voir avec la question de l'égalité, la fiscalité, et une autre qui a à voir avec justement avoir une voix, là, le RIC, c'est ça. Donc je crois qu'on voit vraiment, c'est une forme de réaction contre la post-démocratie, les Gilets jaunes. Alors, la grande question, c'est que ces résistances, elles peuvent être articulées de manière très différente. Parce que ce que l'on est en train de voir, et c'est ça qui, à mon avis, typique du populisme, c'est la frontière qui s'établit entre le peuple. Alors le peuple, évidemment, j'aurais insisté là-dessus parce qu'il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas ça. C'est pas un référent empirique, hein, c'est pas la population, et ce n'est pas non plus une catégorie sociologique. Le peuple, c'est toujours une construction politique, une construction que nous appelons discursive. Donc le peuple peut être construit de manière très différente. La façon dont Marine Le Pen construit le peuple est très différente de celle dont Jean-Luc Mélenchon construit le peuple. Et aussi, bien entendu, l'establishment, comme on appelle ça, ou bien
L'élite, oui.
Moi, j'aime pas trop ce terme d'élite, parce qu'en fait, l'élite, c'est trop vague. Hein. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine façon, les intellectuels peuvent aussi les considérer comme étant l'élite. Moi, je préfère le terme oligarchie, parce que ça veut dire qu'on se réfère vraiment à ceux qui ont le pouvoir. Mais alors ça, c'est justement, quand on parle d'oligarchie, on s'inscrit déjà dans une certaine conception de l'articulation. C'est là, je crois, qu'on a un point de différence fondamental. C'est entre, moi je parle populisme de droite, populisme de gauche, tandis qu'Alain de Benoît considère que le moment populiste, ça veut dire que la droite, la gauche, c'est fini. Hein, ça, c'est notre point de désaccord fondamental. Mais, alors, je crois qu'il faut voir que ces luttes, moi j'appelle ça des luttes démocratiques. Alors, j'ai pas mal de gens qui sont pas du tout de gauche, qui sont pas du tout d'accord avec moi, parce que alors je dis oui, mais Marine Le Pen, elle articule d'une certaine façon des luttes qui sont des luttes démocratiques, mais elle l'articule à partir d'un discours xénophobe, elle l'articule à partir d'un discours qui veut récupérer la démocratie, mais pour la limiter au peuple, disons, de nationaux. C'est ça, il faut voir que dans les deux cas, l'objectif, comme il s'agit de lutte contre la post-démocratie, c'est-à-dire on va récupérer la démocratie. Mais récupérer la démocratie, ça peut se faire de manière différente. Donc, laissez-moi juste terminer. Parce que la manière, disons, que j'appelle populisme de gauche, c'est on récupère la démocratie, pas pour la restreindre au national, mais pour la radicaliser, pour l'étendre, pour justement ne pas se limiter aussi, parce que ça c'est aussi un élément important du populisme de gauche, qui articule toutes ces demandes comme plus de demandes sociales avec les demandes sociétales. Moi, j'aime pas trop ce terme-là non plus, mais enfin, je veux dire, il y a tout ça, c'est déjà, par exemple, quand nous avons écrit avec Ernesto Laclau, Hégémonie stratégique socialiste, c'est dès en 1985, ça veut dire, bon, c'est bien, il y a les antagonismes sociaux, mais il y a aussi, par exemple, le féminisme, l'écologie, on en parlait déjà à cette époque-là, les luttes antiracistes. Alors, pour moi, un populisme de gauche doit construire un peuple qui articule toutes ces demandes démocratiques.
Alors, je voulais juste vous interrompre pour vous dire qu'il me semble, quand on parle de ce, alors, du moment libéral qui a pu précéder ce que vous appelez le moment populiste, ce que vous appelez l'hégémonie néolibérale, on a vu qu'il y avait une manière d'abolir les conflits, ou en tout cas de faire semblant qu'il n'y avait plus de conflits entre toutes les classes de la société.
C'est ça que j'appelle la pause politique.
Voilà, hein. Exactement, et que tout le monde finalement profitait et de la démocratie et de l'enrichissement, etc., etc. Et que là comme l'autre, vous avez l'air de dire qu'avec le moment populiste, on revient dans une lutte. Vous appelez ça une lutte des classes. Vous pourriez dire de votre côté une lutte contre l'oligarchie, du peuple contre l'oligarchie.
Oui, mais
en tout cas, il y a des intérêts contradictoires qui sont toujours là.
Bien entendu, mais justement, c'est-à-dire le moment populiste réintroduit de la conflictualité, justement.
Voilà. Et là, vous êtes d'accord.
C'est ça qui est important.
Oui, là, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, parce que l'idéologie libérale repose sur l'idée qu'il y a une vertu pacifiante de la pratique démocratique, calquée sur l'échange marchand, hein, et qui va désamorcer les conflits, avec en arrière-plan l'idée que les intérêts, finalement, vont se concilier. Et la vie politique réelle montre que les intérêts ne se concilient pas, et que quand on croit qu'ils le sont, on sacrifie certains intérêts, généralement ceux des dominés, à ceux des dominants. Maintenant, il y a deux points sur lesquels on est sans doute pas d'accord, parce que je crois que c'est intéressant, parce que sans ça, on est d'accord sur un grand nombre de choses. Premièrement, puisqu'on parle de conflictualité, je ne crois pas que le grand conflit de l'avenir, ce soit les populistes de droite contre les populistes de gauche. Pour moi, c'est le phénomène populiste contre les vieux partis, d'une part, et c'est surtout la scission entre les libéraux et les illibéraux ou les antilibéraux. Pour moi, je suis totalement anti-libéral, hostile à l'oligarchie que sont devenues les démocraties libérales, hostile au capitalisme libéral. Je crois que c'est ça la grande scission, et qu'on va voir notamment dans ce qu'on appelle la droite, avec beaucoup de guillemets, une les eaux se séparaient entre les conservateurs et les libéraux. Ça a déjà commencé d'ailleurs très largement sous, avec et grâce à Macron. Donc, je pense que le vrai conflit de l'avenir, c'est cela, d'autant plus que ça se double non seulement d'un conflit social, mais également, en France en tout cas, d'un conflit géographique. C'est la fameuse thèse de Guy Louis sur la France périphérique, qui n'ont pas forcément leur équivalent dans tous les pays d'Europe, mais qu'en France, en tout cas, l'ont. Le deuxième point est sans doute plus fondamental, c'est la notion même de peuple. Parce que
c'est un désaccord fondamental.
Très intéressant.
Et la
très
question de l'élimination de la droite gauche.
Tout à fait. Oui. Tout à fait fondamental. D'abord, le peuple, pour moi, c'est le peuple, la souveraineté populaire. Hein, ça, c'est évident. La base de la démocratie, pour moi, c'est pas la vie parlementaire, c'est la souveraineté populaire. Mettons ça de côté. Il y a deux grandes façons, on est d'accord là-dessus, de conceptualiser ou théoriser la notion de peuple. Il y a l'ethnos et il y a le démos. À droite, on privilégie souvent l'ethnos. L'ethnos, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple pris dans son histoire historique et culturelle. C'est pas une notion directement politique. C'est ce qu'il a été, ce qu'il est devenu. Le peuple comme démos, c'est une notion nettement politique, privilégiée plutôt à gauche. Et c'est le peuple, en tant qu'il est dépositaire de la légitimité politique, de la souveraineté populaire et du pouvoir constituant. Alors, est-ce qu'il faut choisir entre ces deux conceptions? Moi, le reproche que je ferai au populisme de gauche de Chantal Mouffe et de Ernesto Laclau, c'est, je dirais, un peu de constructivisme.
Parce que c'est bien vrai, constructivisme.
C'est vrai. Attendez, je termine rapidement. C'est vrai que le peuple se construit. Mais un peuple ne se construit pas à partir de rien, pas plus qu'un individu.
Évidemment. Hein.
Il se construit à partir d'un déjà-là, comme l'individu se construit. Hein. Donc, il faut échapper à l'alternative entre le déterminisme et puis une espèce de liberté flottante et totale et artificielle. Le peuple, on peut le construire à partir d'un déjà-là, et on ne peut pas faire comme si ce déjà-là était sans importance. Et à l'inverse, sous peine de tomber dans une sorte d'identitarisme frénétique, on ne peut pas faire l'élimination du peuple comme démos, qui est la notion politique d'abord et démocratique ensuite. Donc pour moi, le populisme idéal, je sais bien que ça n'existe pas, mais les intellos ne peuvent pas s'empêcher de raisonner toujours un petit peu à l'idéal. Évidemment, c'est la prise en compte du peuple, à la fois comme ethnos et comme démos. Peut-être même faudrait-il ajouter encore une dimension du mythos, du mutos, pour désigner tout cet imaginaire symbolique qui lie l'appartenance sur la base des valeurs partagées, de l'histoire commune et de l'aspiration au commun. Parce que le commun, c'est finalement aussi une notion qui est intrinsèquement liée au populisme. Je crois que ce dont la société actuelle manque le plus, c'est le commun, hein.
Oui. Juste pour résumer, Chantal Mouffe, si je comprends bien, vous, en parlant du peuple, vous pensez évidemment aux classes populaires, à une partie des classes moyennes, mais aussi aux immigrés, et même à la communauté LGBT, par exemple, que vous ajoutez dans cette espèce de fédération d'un populisme de gauche contre l'oligarchie, alors qu'Alain Benoît est souvent les populismes de droite.
Bon.
Explorons toute cette
partie-là. Je ne l'exclus pas. C'est certainement une conception moins inclusive, c'est vrai.
D'accord. Oui, mais ce n'est pas pour autant une conception
excluante.
Ce n'est pas une question tellement d'inclusion.
Juste deux minutes avant la pause, mais je vous laisse les...
Pour moi, le peuple, c'est une volonté collective. Hein, on construit une volonté collective. Et alors, elle peut se faire, c'est toujours, en fait, le résultat de ce qu'on appelait déjà dans l'hégémonie socialiste et traduit socialiste, le résultat d'une chaîne d'équivalence. Il y a toujours une série de demandes sociales qui peuvent être articulées de manière différente. Mais alors là, je crois que j'aimerais bien tout de même pouvoir insister sur ce point-là avant qu'on ne procède plus loin, parce que ma conception, enfin la conception d'Ernesto aussi, on ne peut pas la comprendre si on ne se situe pas dans une conception que j'appelle dissociative du politique. Parce que si l'on pense, qu'est-ce que c'est le politique? Bon, il y a fondamentalement deux conceptions. Conception associative, le politique, c'est l'espace de la liberté, de l'agir en commun, où on va pouvoir arriver à un consensus. Bon, c'est la conception qui domine dans la philosophie politique libérale. Hein. Et puis, alors, il y a la conception dissociative, qui dit non, le politique, ça va avec le conflit, avec l'antagonisme. La politique, donc, pour toujours partisane. Le peuple est divisé. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. fondamentale. Le peuple est divisé dans cette conception. Et la politique, c'est toujours la construction d'un nous, et ça requiert la détermination d'un eux. Ça, c'est vraiment...
La désignation de l'ennemi.
Oui, mais alors l'ennemi... Alors là c'est aussi là, une question...
On reconnaît la fuitiette de gauche.
Mais évidemment, évidemment. L'ennemi, justement, alors là, c'est mon débat avec Schmitt, justement, c'est de dire, bon, oui, il y a de l'antagonisme, mais l'antagonisme peut être mis en scène de manière différente. Hein. Ça, c'est mon argument dans l'illusion du consensus. Schmitt dit, on ne peut pas avoir une démocratie pluraliste, là, parce que... ça nie nécessairement antagonisme, mais il ne pense antagonisme que sur le mot de la construction ami-ennemi. Alors il a raison, parce que c'est vrai que si on ne peut pas légitimer ce combat à l'intérieur de la démocratie, donc ça conduit à la guerre civile. Mais moi, tout mon argument, si vous voulez, pour ça j'ai toujours dit que pour moi Schmitt c'est vraiment quelqu'un c'est un véritable défi, parce que je suis d'accord avec...
Penser avec une partie, et contre lui.
Exactement. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir penser que... Pas éliminer l'antagonisme, hein, mais le mettre en scène de manière différente, de manière qui permette justement l'organisation d'une société pluraliste. Et pour moi, c'est ça la démocratie.
Je vous interromps, on fait une pause, on revient tout de suite après.
Si réellement les banques s'étaient remises en ordre, eh bien, leur cours boursier ne serait pas celui de maintenant. On est là face à une espèce de déversement de liquidités phénoménal, avec des gens qui se disent, bah finalement, les banques centrales délivrent quand on leur demande, et donc on est protégé.
Donc il y a une espèce de transformation du discours économique au travers du banquier central, qui est dans le mystère. La formule ultime, c'était la formule de Greenspan. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Et donc il y a une façon de transformation en pensée magique, et une pensée magique, c'est un échec, c'est un aveu d'échec.
On sait très bien, enfin, c'est une question de probabilité, on sait très bien qu'il y a un moment où il va y avoir un souci.
Lorsque l'on pense au continent africain, il y a tellement de défis à relever qu'on se dit que finalement, la science africaine est très peu développée, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, elle est en pleine effervescence.
On est innovateur en Afrique, hein. C'est le continent où il y a plus d'entrepreneurs femmes surtout. Alors il faut qu'on soit innovant même dans la façon dont nous finançons les recherches. Il faut qu'aujourd'hui, on comprenne l'importance d'avoir des chercheurs qui travaillent, que ce soit sur des recherches appliquées, les mathématiques appliquées, l'ingénierie, mais aussi des recherches fondamentales.
On sait aussi que c'est un continent où il y a une démographie galopante, une jeunesse très marquée, et puis il y a ce gap aussi, on sait que c'est une jeunesse qui peine encore à accéder à l'éducation.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays en Afrique qui donne plus de 1% de leur GDP dans les recherches et innovations. Je crois que le challenge en général, c'est comment tu prends la recherche qui est faite dans les labos et que tu commercialises ça à l'échelle où ça peut devenir une industrie et changer la vie des gens.
Suite de notre débat sur le populisme avec Chantal Mouffe, l'auteur de Pop pour un populisme de gauche, paru chez Albin Michel, et Alain Benoît, qui lui a publié Le moment populiste en 2017 chez Pierre-Guillaume Deroux. Dans son livre, Chantal Mouffe dit que pour l'instant, c'est le populisme de droite qui gagne les élections et qu'elle ne cautionne pas pour autant leur politique réactionnaire ou xénophobe. Elle fait bien toujours la différence entre la gauche et la droite. Oui. Dans ce moment populiste, à la fin, ce populisme qui est une manière de faire de la politique, à la fin, il reste la gauche et la droite et elles sont susceptibles de s'opposer. Oui. Ça n'est pas tout à fait votre analyse à vous. Hein,
le problème, c'est que dès qu'on fait cette analyse-là, on met le doigt sur une réalité incontestable, mais il y a un problème de vocabulaire. Est-ce qu'il faut recourir aux notions de droite et de gauche? Parce qu'on va retomber sur un débat qui dure depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire l'incapacité des politologues à s'accorder sur une définition unitaire de ce qu'est la droite et la gauche.
Il y a toutefois une différence, c'est culturel, c'est les gens de droite qui disent qu'il n'y a plus de droite et de gauche.
Oui, c'est ce que je disais, ça, mais c'est J'ai dépassé déjà.
Ça aussi.
Non, je n'y crois pas tellement. Par contre, il y a un point très important. Vous avez parlé de construction d'une volonté collective. Je suis totalement d'accord. C'est d'ailleurs ce que dit Renan. Hein. Renan disait déjà, une nation, c'est le résultat d'une volonté collective assortie d'une âme, d'un principe spirituel, etc., dans la langue qui était la sienne. Mais la volonté collective, elle est importante. C'est pour ça que je suis pas sûr que ma conception du peuple libre soit moins inclusive que celle de Chantal Mouffe. Simplement, elle subordonne l'appartenance au peuple à une adhésion à cette volonté collective.
Oui,
si l'on ne veut pas participer à cette volonté collective de construction d'un avenir commun, bon, à ce moment-là, on s'exclut de soi-même. C'est tout à fait autre chose. Maintenant, sur la distinction populiste de droite, populiste de gauche, moi, je voudrais vous poser une question, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Vous savez bien que j'ai quand même une assez forte sympathie pour le populisme de gauche, hein, mais on constate qu'il est en train... C'est pas tellement le populisme de droite qui l'emporte, c'est le populisme de gauche qui se cache la figure. Hein. Je passe sur les Grecs, Tsipras s'est aplati complètement. En Allemagne, le projet d'Auberstein n'a pas marché. Podemos est en train de tanguer sérieusement. Et Inigo et Rejon, avec qui vous avez publié des entretiens que les gens doivent lire, parce que ce sont très bons entretiens, bah, finalement, il a pris un peu ses distances vis-à-vis de la tactique actuelle de Podemos avec Iglesias. Et en France...
Et en Amérique du Sud, pour vous, c'était des populismes de gauche
Alors, ce qui est intéressant, alors c'est autre chose, parce que je n'ai aucune sympathie, par exemple, pour Bolsonaro. Hein.
Ça, c'est un populiste de droite, dit-on.
Oui, non, enfin, c'est surtout...
Même pas, parce
c'est
que
encore autre chose. C'est entre... un...
Ça, pour moi, c'est un proto-fasciste, c'est pas du populisme
de
droite.
Oui, pour moi, c'est de l'autoritarisme évangélique, vous voyez, c'est encore pire.
Oui, en tout cas, mais je veux dire, c'est pas un populisme de droite. Mais... Parce que le populisme de droite veut dire qu'on articule tout de même des demandes réelles, politico-démocratiques.
Un instant, en Europe, puisqu'il y a quand même le cas français, Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise a frôlé les 20%, ce qui est considérable, à l'élection présidentielle avec une tactique qui était très populiste à ce moment-là. Il était d'ailleurs très admiratif vis-à-vis des thèses, les vôtres, celles de Inigo Herron, etc. Et puis, finalement, il a godillé un peu entre deux électorats, et puis il est retombé dans l'ornière d'une politique de gauche assez classique. Le résultat, on l'a vu, c'est la chute radicale, 8 ou 6% des voix.
Oui, mais c'est bien pour ça qu'on ne peut pas prendre cet exemple-là comme étant quelque chose qui, si vous voulez, montre que le populisme de gauche ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, je crois que dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça, il a fait un très bon résultat en 2017 parce qu'il a suivi une stratégie populiste. Et il a fait un mauvais résultat aux européennes parce qu'il avait abandonné cette stratégie populiste.
On est d'accord là-dessus. Maintenant, la question subsidiaire, c'est pourquoi l'a-t-il abandonné ? Il y a les tout derniers sondages montrent quelque chose d'assez curieux. Quand on voit les reports de deuxième tour de l'élection présidentielle, les gens qui avaient voté Mélenchon, il y en a un petit nombre, 15%, qui ont voté Marine Le Pen. Il y en a, et les autres se sont partagés entre l'abstention et le vote Macron. Il y a eu un sondage tout récent qui montre qu'aujourd'hui, cet électorat Mélenchon, à 60%, se reporterait sur le Rassemblement national, ce qui est assez stupéfiant. Mais c'est un des sondages qui viennent de sortir. Donc, ma question, et là je m'adresse à vous, pourquoi le populisme de gauche, finalement, en Espagne, ça marche pas vraiment.
Mélenchon
abandonne cette tactique. Pourquoi l'abandonne-t-il?
Oui. Ça, c'est une autre chose. Et par exemple, dans le cas de l'Espagne, il faut aussi voir qu'en fait, ils ont eu un très bon résultat au début, lorsque clairement ils avaient une stratégie populiste. Ouais. Par la suite, justement, ça a été la raison de la dispute entre Errejón et Pablo Iglesias. Pablo Iglesias a décidé de faire alliance avec Izquierda Unida, qui est l'extrême gauche traditionnelle. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont fait que décliner. Alors, par exemple, aux toutes dernières élections, les élections donc du mois d'avril, c'est un, oui. Non, mais mai-avril, ou est-ce qu'il y en a eu deux en un. À Madrid, par exemple, aux élections autonomistes, C'est là où Miguel Reagan a décidé de ne pas suivre la ligne d'Iglesias, parce qu'il disait, bon, ça va pas donner résultat. Et de faire son avec Carmena un nouveau groupe, Mas Madrid. Eh bien, Iñigo Errego en a fait pratiquement 15% avec une ligne populiste, tandis que Iglesias et Podemos, avec leur ligne vraiment de plutôt extrême gauche traditionnelle, ils ont fait 6%.
Expliquez-nous ce qui est pour vous.
C'est pas la stratégie populiste qui est en cause, c'est l'abandon.
C'est l'abandon.
Alors, vous me demandez pourquoi ils ont abandonné. Mais alors là, ce sont des raisons.
Lorsque vous nous expliquiez l'un comme l'autre, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, c'est qu'est-ce que c'est qu'une stratégie populiste, justement?
Justement, c'est qu'on essaye de plus l'expliquer depuis le début. Stratégie populiste, c'est la construction d'une frontière politique qui définit l'opposition fondamentale entre ceux d'en bas et ceux d'en haut.
Voilà.
C'est donc une grande différence avec, par exemple, la ligne libérale, qui n'a pas de frontière.
Mais l'extrême gauche traditionnelle, par exemple, elle pensait aussi qu'il y avait les possédants.
Oui, sauf que l'extrême gauche traditionnelle est là. Alors, il faut reconnaître que le marxisme construit une frontière politique, mais il le construit pas de manière populiste. Il le construit de manière que le capital contre le travail, la classe ouvrière contre la bourgeoisie. Et ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça, c'est pour ça que je voudrais revenir sur la question droite-gauche. Vous savez, moi, quand je parle de gauche, j'utilise le mot gauche comme principe axiologique. Je veux dire, parce que c'est vrai qu'on parle de gauche, on peut dire, ah oui, ça peut être justement des groupes sociaux. Alors, il y a des groupes sociaux qui ont des intérêts particuliers qui correspondent à un projet de gauche, d'autres droites. Moi, je n'y crois pas. Ça, c'est de l'essentialisme. Concevoir la gauche de cette façon-là, pour moi, ça ne marche pas. Mais je crois qu'on ne peut pas abandonner le fait que, et là, je crois qu'on retombe sur quelque chose qu'on était d'accord, il y a une société de pluraliste, le pluralisme des valeurs, à la façon de Nietzsche, à la façon de Max Weber, ça veut dire qu'il y aura toujours de l'antagonisme. Donc, on ne peut pas, toutes les valeurs ne sont pas réconciliables. Et à un moment donné, il faut choisir son camp. Et c'est là, je crois, que la distinction droite-gauche permet justement de penser les différents camps. Par exemple, il y a un petit livre de Norberto Bobbio que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « Droite-gauche », parce que notre discussion, on l'a eu en Italie.
En Italie, il a fait une discussion énorme, et en France, il est passé presque inaperçu. Oui.
Et alors Bobbio dit, mais finalement, si on voit que la différence entre la droite et la gauche, c'est que la gauche, pour elle, le principe fondamental, c'est l'égalité, tandis que la droite, ça commode parfaitement des inégalités, si on peut les présenter comme étant une défense de la liberté. Donc là, je crois que c'est dans ce sens-là que je veux maintenir la distinction droite-gauche. Pas dans un sens sociologique qui a des intérêts qui sont plus ou moins. Parce que finalement, moi je crois à ce pluralisme des valeurs et au fait que toutes les valeurs ne sont pas réconciliables.
Mais moi aussi, je crois au pluralisme des valeurs et au fait que toutes les valeurs ne sont pas réconciliables et que de la nécessité de savoir à qui on s'attaque et de choisir son camp.
Voilà. J'ai choisi mon camp, mais je ne suis pas très clair sur quel est votre camp.
Ce que je vous reproche cordialement, c'est de vous accrocher à un vocabulaire qui est devenu vide. Vous ne pouvez vous dire de gauche qu'en disant « Ah, mais attention, pas cette gauche-là, ni celle-là, et attention, faut pas non plus croire que par gauche, je veux dire, on n'en sort plus. Allons dans des choses concrètes, la liberté, l'égalité, qu'est-ce qui est le plus important ?
Alain de Benoît, et je vous pose à votre tour la question, là, une stratégie populiste, une ligne populiste, ce serait quoi pour vous ?
Écoutez, prenons l'exemple de Mélenchon.
Ouais.
En quoi c'était plus populiste ?
En 2017.
En quoi est-ce que les classes populaires se reconnaissaient mieux ? C'est très simple. Dans la campagne présidentielle, dans les meetings de Mélenchon, on voyait des drapeaux tricolores, pas des drapeaux rouges. On chantait la Marseillaise, pas l'international.
Aussi l'international.
Mélenchon ne parlait presque jamais du mot gauche, mais il parlait du peuple.
Mais oui, absolument.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est-à-dire qu'il prenait en compte une dimension nationale, patriotique, auquel les gens des classes populaires sont sensibles, on le voit, dans plus d'une occasion. Or, c'est ça qu'il abandonne pour se retourner vers un public, un électorat bobo, qui vit dans les mondanités et qui poursuit ce que la gauche a fait de pire, et là-dessus je suis entièrement d'accord avec Jean-Claude Michéa, c'est-à-dire de trahir systématiquement l'idéal de défense des travailleurs, l'idéal de défense du socialisme au profit de la fusion vers l'hégémonie libérale, la reconnaissance du principe du marché, de la société de marché. En 1983, le tournant de Mitterrand, hein, ça a été l'abandon des principes socialistes et disons, ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'alternative. Hein, there is no alternative. Hein, c'est Margaret Thatcher. Oui. Bon. Ben, dès qu'on, vous savez comme moi, que dès qu'on dit il n'y a pas d'alternative, on sort du politique.
Donc,
dès qu'en politique, il y a toujours une alternative.
Dès que la raison reprend ses droits, au fond, on quitte la ligne populiste. Et dès qu'on est dans les symboles, dans l'émotion,
ben, c'est pour ça que je disais, il faut tenir compte du démos et de l'ethnos. Il faut poser, à la fois le peuple comme quelque chose qui est à construire et à reconstruire au moyen d'une volonté collective, mais en partant aussi d'un déjà-là qui lui relève plus de l'ethnos, c'est-à-dire qu'il y a une histoire spécifique et que tout le monde peut s'y agréger à condition simplement de vouloir bâtir cet effort de commun en commun.
Oui, mais alors, quelques petites clarifications. D'abord, la question du démos, parce que j'insiste beaucoup sur l'importance de la conception dissociative pour comprendre ce que c'est qu'une stratégie populiste. Parce qu'au fond, je crois qu'une des raisons pour lesquelles il y a tellement d'opposition au populisme, c'est parce que, justement, c'est une stratégie d'établir une frontière. Alors, évidemment, les libéraux, ils n'en veulent absolument pas. Donc, ils considèrent que c'est une pathologie de la démocratie, établir une frontière. Non, non, les gens bien... Alors, par exemple, combien de fois on m'a pardonné, mais pourquoi cette distinction entre nous, eux? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être tous nous, je veux dire
mais, c'est le rêve
oui,
ancien.
Oui, oui, d'accord. Oui, mais j'ai l'impression, d'une certaine façon, certaines de vos formulations, elles sont dans ce sens-là. Mais revenons à la question de démocratie. Demos Kratos, hein, d'accord. Il y a un texte très intéressant de Nicole Laureau où elle montre qu'au fond, Kratos, ça veut dire avoir le dessus. Alors, Demos Kratos, ça veut dire qu'au fond.
Pardon, Chantal, écartez un tout petit peu votre truc, parce qu'il frotte sur votre micro.
Avoir le dessus. Donc, au fond, ça indique qu'il y a toujours une partie du peuple qui a le dessus. La démocratie, c'est pas tout le monde, il est beau, il est gentil, on va s'entendre. Hein? Ça veut dire qu'il y a du conflit à l'intérieur de la démocratie. C'est toujours une partie du démos qui a le kratos. Et justement, le populisme, pour moi, le populisme construit le démos, mais il le construit justement à partir d'une division. La façon dont le populisme de gauche construit le démos, c'est à partir justement d'une articulation spécifique de demandes démocratiques qui vont viser à avoir une radicalisation de la démocratie, tandis que dans le cas du populisme de droite, c'est au contraire pour la restreindre. Alors, je suis d'accord avec vous. Moi, il y a un problème avec ces mots. C'est une question de vocabulaire aussi. Sauf que...
Regardez d'ailleurs que tout ce que vous dites là, qui est très exact, vous avez le plus grand mal à le faire accepter d'une certaine gauche, celle qui justement rêve d'un monde sans frontières, bisounours.
Absolument, absolument. Mais voilà. Et moi, en fait, j'ai beaucoup cherché d'avoir un autre terme. À un moment donné, on parlait du populisme progressiste. Maintenant, on ne peut plus parce que Macron nous a accaparé le mot. Alors, il y en a deux. Bah, avec Inigo Errigón, si vous avez lu le livre, vous verrez qu'on a un petit discours là-dessus parce que il dit, non, un populisme démocratique. Je dis, oui, mais démocratique, bon, c'est trop... Donc, mais j'ai une certaine difficulté à dire, je crois... C'est ça, pour moi, ce qui est important, il faut distinguer différents types de populistes. Hein. Bon. Et finalement, alors populisme inclusif, populisme qui soit plutôt un populisme, disons, immunitaire.
Vous parlez, vous dénoncez un populisme réactionnaire ou xénophobe.
Oui, justement. Alors, pour moi, donc si vous voulez, mais c'est vrai qu'en fait, droite et gauche sont des métaphores. Hein,
vous savez ce que disait Nietzsche, hein. Oui. Nous sommes à une époque où les mots ont commencé à puer.
Oui.
Ça pue. Alors, oui, mais il faut aller essayer. C'est dur pour l'intellectuel, mais il faut essayer d'aller au-delà des mots.
Ce n'est pas en abandonnant le terme de gauche qu'on résout le problème, parce qu'il faut en trouver un autre.
C'est pas en
le
maintenant non,
mais il faut
plus.
En trouver un
Regardez
autre pour
les gens qui ont découvert autour des ronds-points les gilets jaunes. Hein, je parle des débuts du mouvement, qui ont découvert une nouvelle sociabilité finalement, qui venait d'un peu partout. Hein. Il y en a qui avaient voté Le Pen, d'autres Mélenchon, d'autres ceci ou jamais ou pour tout le monde. Hein. et qui se découvraient les mêmes amertumes, les mêmes colères, les mêmes espoirs, hein, et qui ont retrouvé un mode de vie commun.
Hein. Oui, mais ils n'ont pas...
Ben, tous ces gens-là, ce n'est pas la droite ou la gauche qui les intéressait. Non, les partis, les syndicats ne les intéressaient pas.
Non, mais justement, c'est le problème, à mon avis, avec les Gilets jaunes, c'est ce refus d'institutionnaliser, de choisir un camp. J'ai bien peur que finalement, bon, ça, de toute façon, ça ne veut pas critiquer, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, mais que dans la mesure où ils n'acceptent pas d'essayer d'avoir un débouché politique, ça va, il peut très bien se passer ce qui s'est passé avec Occupy Wall Street, alors avec les indignados, heureusement justement, il y a eu Podemos qui a décidé, on ne peut pas laisser toute cette effervescence ça disparaître, donc ils ont créé Podemos. Mais on voit pas très bien, par exemple, dans le cas des Gilets jaunes,
sa traduction politique.
Traduction politique. Et sans traduction politique, ils vont pas parvenir à avoir un impact sérieux.
C'est un épiphénomène significatif et, à mon avis, une répétition générale d'une révolte sociale de beaucoup plus grande ampleur qui se produira dans les années qui viennent. Maintenant, il y a un sujet délicat, hein, je suis d'accord, sur lequel on ne peut pas faire complètement l'impasse, hein. Un mouvement populiste, par définition, s'adresse quand même en priorité aux classes populaires.
Pas dans ma vision, c'est-à-dire
mienne, oui, parce que un populisme qui ne s'occupe pas des classes populaires, c'est quand même un peu paradoxal.
Oui, d'accord, mais c'est pour... Bon. Il n'est pas question de... Parce qu'on m'accuse aussi parfois de dire que ma conception, c'est de dire qu'il faut privilégier les demandes sociétales sur les demandes sociale. Dans l'hégémonie socialiste, précisément, ce qu'on disait, c'est qu'il faut absolument, c'est nécessaire pour un projet émancipateur, comme on veut l'appeler, articuler la demande de la classe ouvrière avec les demandes, d'autres demandes, disons.
Voilà. Et aujourd'hui, écoutez... Pour autant que ça s'articule, parce que le sociétal a été aussi un moyen de faire oublier le social.
Mais
ce que je voulais dire, simplement, c'est ceci. Je pense quand même que les classes populaires sont l'objectif visé, hein. Il se trouve que en France, un peu partout, classes populaires en ont assez de l'immigration. C'est comme ça. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est un fait, tous les sondages le montrent. Et le refus de quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, de venir sur ce terrain, ce que je peux très bien comprendre de son point de vue, est-ce que ce n'est pas l'une des causes qui explique sa relative stagnation, alors que il a tous les autres ingrédients de la marmite, si vous voulez.
Oui, mais remarquez, par exemple, en Espagne...
C'est un problème qu'il faut poser à froid.
Oui, mais je crois que c'est pas... Alors, c'est un problème épineux, hein, je suis d'accord avec vous sur l'immigration. Mais c'est pas nécessairement ça qui va être l'obstacle fondamental. Par exemple, le problème de l'immigration, jusqu'à très peu de temps, en Espagne, ça ne se posait pas. Là, c'est uniquement maintenant qu'on...
Mais non, parce que c'était en Italie, mais maintenant, ça va se poser en Espagne.
Oui, justement. Et malgré tout, disons, il y a eu l'évolution, l'évolution, comme on veut l'appeler, de Podemos, qui a... c'est la séparation Iglesias...
On voit bien le sens général.
Parce qu'il y a... ils ont dit non...
Mais on a l'impression que c'est vraiment ça, cette différence entre, au fond, les partis dits populistes qui gagnent les élections, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne avec le Brexit, c'est toujours avec quelque chose d'excluant et parfois qu'on peut qualifier à tort ou à raison de xénophobe.
Oui, absolument.
Et dans les pays de l'Est, c'est de la même façon, de l'Est de l'Europe, en Italie, bien entendu. Et ce serait la différence entre ces partis populistes qui gagnent les élections, que l'on dit de droite, et puis les partis populistes qui, pour l'instant, perdent les élections, que l'on dit de gauche, ça.
Oui, mais enfin, je préfère parler de stratégie politique plutôt que de parti populiste.
Mais c'est bien que c'est une stratégie, parler d'immigration ou pas.
Non, mais par exemple, la France Insoumise ne s'est jamais présentée comme étant... définie comme étant un parti populiste. Hein, c'est les Insoumis. D'ailleurs, je crois que c'est important aussi de voir. À propos, quelque chose que je voulais dire à propos de Mélenchon. Vous savez, j'ai eu, c'était avant les élections, un débat avec lui à la Maison de l'Amérique latine, justement sur le peuple. Et il a terminé en disant quelque chose avec lequel j'étais complètement d'accord. Il dit, il faut... comment est-ce qu'il a exactement former le peuple pour refonder fédérer le peuple pour refonder la gauche. Hein, c'était donc Mélenchon n'a jamais abandonné la référence de gauche, mais fédérer le peuple pour refonder la gauche. Alors je crois que par exemple dans certains cas, une stratégie que j'appellerais, mais c'est, au fond, c'est au niveau analytique, hein, populiste de gauche. Je ne dis pas que parti, d'ailleurs, on est, ils vont pas s'amener dans les quartiers. D'ailleurs, nous, on défend le populisme de gauche. Parfois même, il est important pour un parti qui défend une stratégie politique gauche ne pas se présenter comme étant de gauche. Parce que ça, automatiquement, ça va créer des résistances. Vous voyez?
Donc, sans doute des résistances significatives. Moi, je crois, en fait, vous savez. Les gens s'en foutent complètement. Quand on leur dit on va refonder la droite, on va refonder la gauche, les gens ont, ça fait 50 ans qu'ils entendent ça. Ce qu'ils veulent, c'est, ils ont des problèmes avec leurs gamins, avec la sécurité, avec les quartiers, avec leur emploi. Là, ils voudraient qu'on leur dise comment on sort d'un système où ils sont devenus invisibles, inaudibles, pendant qu'une oligarchie dont il voit bien la dimension mondialiste, transnationale, se déplace d'hôtel en aéroport, claque un fric terrible, pendant qu'eux sont dans le caca, quoi, tout simplement.
Oui, mais je suis d'accord avec ça, mais justement...
Alors, c'est pas parce qu'on les dit, oh, on est de gauche, attention, mais là, non, on est de droite.
Mais bien entendu, mais pour moi, si vous voulez, une stratégie populiste de gauche, c'est une stratégie pour laquelle vraiment c'est le capitalisme financier.
Oui.
C'est parce que, c'est, au fond, tous ces problèmes qu'on a examinés, que j'appelle la post-démocratie, c'est la conséquence du capitalisme financier.
Et nous, c'est ce qui le refusons.
Oui, sauf que c'est pas toujours très clair du côté du populisme de droite, si vous voulez.
Non, c'est pas très clair. Et je suis le premier à le regretter.
Ah bon, d'accord.
Je suis le premier à le regretter. Je l'ai même écrit à plusieurs reprises. Tout populisme qui s'oriente vers un compromis avec la logique financière libérale ne mérite pas de parler du peuple.
Oui, d'accord. Bon, alors là, mais vous voyez, c'est ça. À mon avis, c'est vraiment important ça de reconnaître qu'il y a, il y a un E, il y a un E. Je vois pas du tout comment. Par exemple, il y a une chose qui me préoccupe un petit peu. Mais aujourd'hui, bon, c'est très bien. Tout le monde parle d'écologie, c'est magnifique. Mais l'écologie, ça peut être articulé de manière très différente.
On peut avoir
une écologie autoritaire, on peut avoir une écologie...
Du développement durable à la théorie de la décroissance,
exactement.
Il y a de la marge.
Exactement. Et, par exemple, bon, pour moi, une écologie qui ne met pas en question le capitalisme financier et le modèle néolibéral, c'est pas une écologie qui va résoudre le problème. C'est pourquoi moi j'ai énormément de sympathie pour l'idée de Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez, parce que ça vous montre comment on peut établir une chaîne d'équivalence entre des demandes sociales et les demandes qui on voit plutôt avec des questions qui ne sont pas de classe. Je crois que là, mais c'est ça l'articulation d'une chaîne d'équivalence. Et clairement, dans le cas du Green New Deal, ben, on sait très bien quel est l'adversaire.
Anne Benoît.
On a fait un petit peu de marathon là, mais on a essayé de faire le tour d'un problème qui est difficile à analyser parce qu'il est en cours. Hein, finalement, on parle de quelque chose qui se déroule sous nos yeux. On n'a pas du tout le recul. Et je pense que le bilan, quand on sera à l'heure des bilans, sera nécessairement contrasté. Il y aura des choses dont il y aura certainement lieu d'être satisfait, d'autres qui ne le sont pas. Je crois aussi que le système du capitalisme, de l'hégémonie néolibérale, c'est comme l'Union soviétique, ça s'écroulera de lui-même. Et pas sous le poids des critiques qu'on lui a adressées, malheureusement.
Sauf que, comme on le sait très bien, les écroulements, ça ne veut pas nécessairement avoir des issues qui soient des issues progressistes. Bon, si on peut utiliser le terme.
Ça peut être moins bien qu'avant.
Ça peut être pire qu'avant.
Oui,
bien sûr. En fait, quand je dis que, pour moi, vraiment, si vous voulez, c'est vrai que le combat fondamental, c'est entre l'articulation de cette lutte contre la post-démocratie, soit un projet de radicalisation de la démocratie ou au contraire de restriction. Mais il y a aussi encore une troisième solution, enfin qui n'est pas vraiment une solution, mais qui peut être un peu intermédiaire, et je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer ici en France, c'est qu'on a le système néolibéral qui veut se défendre, mais ce système néolibéral pour se défendre devient de plus en plus, agressif, sécuritaire, là, je voudrais faire référence à des travaux intéressants de Wolfgang Streich dans son livre « Du temps acheté ». Il dit, je crois qu'il y a quelque chose de très juste là-bas, on est arrivé à un moment où la possibilité d'avoir, disons, une forme de conciliation entre le capitalisme et la démocratie, c'est fini. Ça a été possible pendant l'époque, moi, que j'appellerais plutôt l'hégémonie social-démocrate, c'est-à-dire l'État keynésien après le welfare state. Mais maintenant, c'est plus possible. Donc, je crois que si on n'a pas une sortie populiste, on va avoir une sortie de défense du libéralisme autoritaire.
Vous savez, je vous arrête. Malheureusement, c'est fini. Bon. Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.